j'ai même regroupé pour moi toutes les différentes promotions qui s'y trouvent. Comme ça, je ne suis pas confronté tous les jours à ces promotions, mais je peux de temps en temps aller voir si cela m'intéresse. Et je consulte ça rien que sporadiquement, bien entendu, mais je l'ai fait cette semaine parce que je cherchais quelque chose et j'ai vu un tas de différentes promotions. Il y avait Uber Eats. Vous savez ce que c'est, ça? J'ai un voisin qui presque tous les jours commande via Uber Eats. On se demande, mais est-ce qu'il mange rien d'autre que ça? Ça, c'est pas vraiment mon genre. Il y avait la Libre Belgique, ça me tente un peu plus, savoir un peu ce qui se passe. Il y avait Flixbus pour partir à Paris ou en Allemagne, etc. Il y avait Booking.com, MediaMart, des choses intéressantes, des offres et des sociétés immobilières bien trop chères pour notre déménagement, etc. Comment choisir toutes ces différentes choses qui sont sur le marché? Alors, c'est compliqué, n'est-ce pas? C'est pas facile à savoir pourquoi j'ai réagi à une promotion et non pas à une autre. Essentiellement, je pense qu'on peut réduire ça à trois critères dans l'ensemble. D'abord, le besoin que je ressens pour le produit. Est-ce que je désire ce produit sur le moment même? Est-ce que je ressens que cela me serait utile? Ensuite, il y a une analyse bénéfice, bien entendu. Ce qu'il propose comme produit, est-ce que le bénéfice que je tire de ce produit-là vaut l'investissement? Forcément, on doit y penser. Et ensuite, je pense qu'il y a la question de confiance. Est-ce que j'ai confiance que celui qui me propose un produit est digne de cette confiance? Est-ce que ce sera à la hauteur de mes attentes pour finir? Ça veut dire que moi, j'étais attiré cette semaine par un logiciel pour des recherches bibliques. Je comprends que ce n'est peut-être pas ce que vous avez à cœur actuellement pour vous, mais ça m'intéressait parce que l'ancien logiciel que j'avais était vendu par une société maintenant qui est tombée en faillite. Et donc, il m'a fallu quelque chose pour remplacer cela. Et j'ai vu qu'il y avait une offre spéciale pour fêter les 25 ans depuis le lancement de ce logiciel. 25 ans, et donc ils vendaient ça à 25 euros et non pas à 200 euros pour ce logiciel. Bien entendu, ça avait l'air intéressant. Mais le problème majeur que j'avais, c'est que d'autres amis de confiance qui travaillent un peu dans ce domaine, y compris Kobi, ils ne connaissent pas ce logiciel-là. Donc je me suis dit, oh là, je vais dépenser 25 euros, mais est-ce que pour finir, c'est du gaspillage, parce que pour finir, ce n'est pas vraiment ce qu'il me faut. Et la confiance en ce sens-là ne vient que lorsque je parle donc, à d'autres amis, mais aussi lorsque j'utilise cet outil moi-même, je découvre, ah oui, c'est vraiment sympa, ça, je ne savais pas que ça pouvait faire ça, etc. Etc. En fait, pour le moment, je l'ai acheté pour votre information, mais je n'ai pas encore utilisé. Donc, vous pouvez me demander d'ici une semaine ou deux, est-ce que ces 25 euros valaient la peine? J'espère que oui. Jésus-Christ, il n'est pas un outil, un logiciel, il n'est pas non plus un produit. Non, c'est quelqu'un, une personne historique. Mais nous avons vu la fois dernière, dans le passage qui précède celui-ci, il est quelqu'un qui demande qu'on le suive. Et suivre Jésus, nous l'avons vu, c'est quelque chose d'assez exigeant d'après Jésus lui-même. Il demande la toute première place dans notre vie. C'est un engagement envers lui qui doit passer avant d'autres obligations, toute autre responsabilité. Et donc il est juste, pendant que nous étudions ces chapitres de Matthieu, où Jésus se présente à nous, il est juste que nous réfléchissons à son sujet. Est-ce ce Jésus-là est digne de ma confiance? Et les questions à poser sont semblables à celles que j'ai posées pour acheter un outil de logiciel. Est-ce que moi j'ai besoin de ce que Jésus m'offre? On verra cela plus la semaine prochaine, quand Jésus, dans le passage suivant, nous dit qu'il est le médecin qui est venu pour des malades. Suis-je malade, là, spirituellement parlant, comme Jésus le dit? Est-ce que j'ai besoin de ce qu'il m'offre? Et si je fais l'analyse coût-bénéfice, vaut-il la peine de le suivre? Au début du chapitre 8, nous avons déjà vu, à travers trois guérisons différentes, que Jésus nous donne un avant-goût d'un monde meilleur, encore à venir, le royaume de Dieu dans toute sa plénitude, dans lui-même est le roi, le fils, le Christ. Donc oui, c'est coûteux, mais suivre Jésus, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais la dernière question est celle de la confiance, n'est-ce pas? Puis-je faire confiance à Jésus-Christ? Et ça, c'est une question importante. Visiblement, il y a très peu de nos concitoyens, très peu de nos collègues au travail, très peu de maisons nues qui sont distribuées des flyers cet après-midi, très peu de nos amis à l'école qui pensent que Jésus mérite la moindre réflexion. Dieu, Jésus-Christ, pour un bon nombre de nos concitoyens, ce n'est rien qu'un gros mot qu'on entend lorsque nous sommes choqués ou nous sommes frustrés dans la vie. Proposer à ces personnes qu'ils se soumettent à Jésus-Christ, deviennent disciples de Jésus-Christ. C'est comme si on propose qu'ils se soumettent au Père Noël. C'est ridicule, c'est même bizarre de proposer ça aujourd'hui. Est-ce que vous êtes conscient de ça? À quel point c'est bizarre dans notre société de proposer que nous soyons disciples de Jésus? Car Jésus, au mieux pour la plupart, n'est rien qu'un personnage de l'Antiquité, un personnage religieux, éventuellement, oui, avec quelques propos intéressants au sujet de la paix, mais pas quelqu'un à suivre à la lettre aujourd'hui. Et c'est pour cette raison-là que revenir aux sources pour découvrir le Jésus authentique, le Jésus dont les premiers témoins ont vu et ont présenté dans leurs écrits, est super important. Et c'est bien ça que Matthieu y fait en rassemblant ces trois épisodes de la vie de Jésus, du ministère de Jésus que nous venons de lire. Trois épisodes où chaque fois Jésus opère un miracle. Et avec une vue d'ensemble de ces trois épisodes, j'aimerais vous inviter à contempler certaines facettes de la personne de Jésus. Vous allez trouver ces trois facettes sur le dos de votre feuillet si vous voulez suivre cela. C'est assez simple. D'abord, contempler le pouvoir de Jésus-Christ. Contempler le pouvoir de Jésus-Christ. Apparemment, il y a des tempêtes ardentes de temps en temps sur le lac de Galilée. Verset 24, une telle tempête surgit sur le lac. La barque dans laquelle se trouvaient Jésus et ses disciples était couverte par les vagues. Et les disciples, entre eux, il y avait un bon nombre de marins expérimentés, des pêcheurs, n'est-ce pas? Bah, eux, ils s'inquiètent pour leur vie. Verset 25, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Mais lui, verset 24, que faisait-il? Il dormait. Alors une fois réveillé, qu'est-ce qui se passe? Il se lève et il parle, il menaça, nous dit notre texte, il parla sévèrement au vent et à la mer et un grand calme se fit. Est-ce que vous avez essayé de faire ça? Lorsqu'il y aura des files pour prendre l'Eurostar ou le Shuttle ou le ferry pour l'Angleterre ou la Grande-Bretagne d'ici 3 semaines, peut-être 3 mois si on arrive à avoir cette extension, après le Brexit, je vous encourage alors d'essayer de louer vous-même une petite barque pour traverser la Manche. Ce serait le meilleur moyen d'y arriver d'après ce qu'on nous dit. Et lorsque vous êtes au milieu de la Manche avec votre famille dans cette petite barque, je vous demande de faire un petit essai. au calme. Au calme, la manche. Calme à toi. Je vous conseille de faire ça, cette fois-ci, avec votre famille endormie autour de vous. Parce que si vous dites cela et ils vous entendent, ils risquent de ne pas réagir comme des disciples en disant avec de l'émerveillement qui est-il, mais ils risquent plutôt de se moquer de vous, n'est-ce pas? Mais les disciples disent, lorsque Jésus fait une telle chose, quel est celui-ci? Quel est celui-ci? Et cela nous rappelle du psaume 107, entre autres, que nous avons lu tantôt. Le psaume 107 disait « Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leurs angoisses. Il arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils étaient apaisés. » Jésus a le pouvoir divin de l'Éternel sur la mer. Même les vents et la mer lui obéissent. Dit les disciples. Non seulement il a le pouvoir sur la nature, mais aussi il a le pouvoir sur l'humain. Car le deuxième épisode présente Jésus en train de chasser deux démons, deux hommes possédés par des démons à un point où ils faisaient peur aux autres. La fin du verset 28 du chapitre 8. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Mais confrontés par Jésus, ils reconnaissent l'autorité que Jésus, lui, il a sur eux. « Que veux-tu de nous ?» dit-il, « Fils de Dieu. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Le temps fait référence au jugement que Dieu amène sur tous ceux qui s'opposent à lui, à son roi, à son fils, lorsqu'il viendra définitivement pour juger les morts et les vivants. Et eux, ils voient Jésus, et si vous voulez, pour eux, c'est comme si, au lieu de voir une bande-annonce d'un film des choses encore à venir, c'est comme si c'est la sortie du film même. Ils le savent, Jésus a l'autorité sur le mal, sur tous les domaines spirituels de cette vie. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et donc, ils plaident que Jésus les chasse dans un grand troupeau de porcs. « Allez !» leur dit Jésus au verset 32. Et cela se fait. Son autorité sur les démons est absolue. Ce n'est pas, pour finir, la sortie du film, les événements eux-mêmes, le jugement ultime. Car il leur permet, on ne sait pas pourquoi, mais il leur permet d'aller ailleurs, chez ses porcs. Mais ça, c'est un avant-goût de cette destruction ultime à venir. Je pense que c'est facile de passer de côté de la portée de l'autorité de Jésus ici, car dans notre monde matérialiste, nous supprimons, n'est-ce pas, toute possibilité d'un monde spirituel. Nous disons, oh, des démons, est-ce qu'on croit à ça aujourd'hui? Mais les auteurs de la Bible ne commettaient pas de telles erreurs. Les lieux spirituels sont bel et bien une réalité, même s'ils ne sont pas forcément visibles. Mais la Bible condamne toute tentative de contacter les lieux spirituels qui ne passent pas par Dieu, le Dieu de la Bible. Car lui seul est fiable, lui seul est bon. Et ce qu'il nous dit dans sa parole de ces réalités célestes nous suffit. La Bible, Jésus, nous donne accès au lieu spirituel de manière sécurisée et sûre. Et cela parce que lui-même, il a vaincu les pouvoirs et les dominations néfastes. Comment? Par sa mort sur la croix. Donc ce deuxième épisode nous invite à contempler, non pas la réalité des démons, mais le pouvoir de Jésus sur les démons. Et lors du dernier miracle, des trois, nous contemplons le pouvoir pardonner de Jésus lui-même, de pardonner les péchés. Les amis, début du chapitre 9, ils amènent le paralytique à Jésus, et Jésus lui dit, verset 2, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ben, les scribes entendent cela, ils sont scandalisés. Cet homme blasphème. Ils réclament, selon eux, l'autorité de Dieu de pouvoir pardonner les péchés. Jésus l'a mis au défi. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire, de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche. » Pour nous, lorsqu'on entend cette question, je pense que nous pensons que c'est la première chose qui est la plus facile à dire. « Tes péchés te sont pardonnés. » Tandis que guérir quelqu'un, pour nous, c'est assez difficile, n'est-ce pas, à faire. Mais je ne pense pas que les scribes et Jésus, qui connaissaient bien la Bible, voyaient la chose de cette manière. Eux, ils savaient que pardonner les péchés était la chose la plus difficile à dire. Quand Dieu seul pouvait faire cela. Il y a des exemples dans l'Ancien Testament, des hommes qui effectuent des miracles, des guérisons. Moïse, Aaron, Élie, Élisée, etc. Mais il n'y a pas d'exemple d'homme qui pardonne les péchés. Et donc, verset 6, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, » que dit-il, « Lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi. » Et verset 7, il se leva et il s'en alla chez lui. Ici, cette fois-ci, mes amis, je ne vous recommande pas d'essayer de dire une telle chose à un paralytique. À quel point cela serait inapproprié. Mais Jésus, il peut le dire, parce qu'il peut le faire. Et ainsi, il met les scribes qui doutaient de son autorité de pardonner les péchés. Il met ses scribes au défi, car s'il n'a pas l'autorité de pardonner les péchés, s'il ne vient pas de Dieu, comment se fait-il que Dieu le permet de faire une œuvre quand même impressionnante, de guérir une telle personne? Il démontre ainsi qu'il a réellement le pouvoir de pardonner les péchés. Contemplez alors le pouvoir de Jésus. Ce n'est que lorsque nous sommes persuadés de son pouvoir que nous placerons notre propre avenir d'entre ses mains. Inutile de penser que je vais lui faire confiance si je ne suis pas persuadé qu'il a cette autorité, qu'il a ce pouvoir sur la nature, sur le mal et sur les péchés. Mais la deuxième chose donc à contempler dans ces trois récits, c'est les priorités de Jésus-Christ. Les priorités de Jésus-Christ. Car chaque histoire, ici, les trois histoires, démontrent une facette des priorités de Jésus. Cela est intéressant car cela nous aide non seulement à connaître son pouvoir brut en tant que tel, mais aussi la personne qui exerce ce pouvoir-là. D'abord, dans la barque, nous voyons sa priorité, ce n'est pas le confort, la sécurité, telle que les disciples percevaient. Eux, ils s'inquiétaient pour leur vie. Ils présupposaient, en réveillant Jésus, que lui aussi devait avoir cela, calmer la tempête, comme première préoccupation. Mais si le maître du vent et de la mer s'endormait, il se réveillait non pas pour apaiser leur crainte, mais afin de faire remuer leur foi. Pourquoi, dit-il, avez-vous peur? Jean de peu de foi. Moi, j'entends ça et à leur place, j'ai envie de répondre, mais de quoi parles-tu, Jésus? Bien sûr, ils avaient peur. C'est quand même compréhensible, non? Mais lui, il voyait ça autrement. Car ce n'est que lorsque nous nous trouvons en réelle difficulté que nous voyons la qualité de notre toute petite foi. Combien d'entre nous, en lors d'une crise, criaient à ce moment-là désespérément à Dieu? sans pour autant croire qu'il allait réellement intervenir. Jean de foi. Et les disciples ne comprennent pas, vous voyez, encore qui est Jésus. Quel est celui-ci, demandent-ils. Ils ne connaissent pas encore la réponse. Ils n'ont pas encore assimilé toutes les données à ce stade. Mais cet événement permet qu'ils posent la question, qu'ils contemplent Jésus-Christ et qui il est. Vous savez, la foi en Christ n'est pas d'abord une réalisation de ce que Jésus peut faire pour chacun d'entre nous, mais c'est d'abord une réalisation de qui il est. Lorsque les circonstances autour de nous nous mettent au défi, ce dont nous avons le plus besoin de connaître, ce n'est pas que Jésus peut faire quelque chose pour nous, mais c'est plutôt qui est Jésus. Notre foi ne sera jamais stable si on ne se repose pas sur qui il est. À ce moment-là, lorsque nous sommes persuadés de qui il est, nous pouvons avoir la confiance de faire face aux différentes circonstances difficiles et variées de la vie. Deuxième épisode nous montre que Jésus met le sort des hommes au-dessus du sort des animaux. Car oui, Jésus permet que ces deux démons sortent de ces deux hommes et entrent dans les porcs. Et tout le troupeau, verset 32, se précipita du haut de l'escarpement dans la mer et ils périrent dans les eaux. Et quelle est la réaction de cette ville non-juive? Fin du verset 34. Il le supplia de s'éloigner de leur territoire. C'était bien trop coûteux pour eux que Jésus reste, si ça c'est l'impact qu'il aura économiquement pour eux. Et de nouveau, cela nous met au défi, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on met en premier. Qu'est-ce que Jésus met en premier? La sécurité financière des hommes ou que des démons soient expulsés des hommes? Nous courons le danger, chers amis, de mettre l'accent uniquement sur des choses d'une importance limitée, de cette vie-ci. L'économie, la bourse, le compte d'épargne en banque, les événements politiques, l'environnement, la réussite professionnelle, la santé, le sport, le loisir. Mais Jésus s'intéresse, lui, à des questions encore plus fondamentales, non pas limitées dans le temps, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu aujourd'hui, connaissance de Dieu dans l'éternité. La délivrance de la puissance démoniaque. L'œuvre transformatrice de l'Esprit de Dieu chez l'homme. La liberté de l'homme du péché, de l'esclavage du péché. Ce sont là, chers amis, des questions fondamentales. Jésus met une priorité là. Et ça fait chevauchement pour nous avec le troisième épisode, n'est-ce pas? Car une fois de plus, on se met là maintenant dans la peau des amis du paralytique au début du chapitre 9 qui ont amené ce paralytique vers Jésus. On se met dans la peau du paralytique lui-même. Car depuis le début du chapitre 8, qu'a-t-il fait Jésus? Il a guéri. Il a guéri le lépreux impur. Il a guéri la fille du centenaire. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Et le voici, le paralytique, devant Jésus. Et que lui dit-il, Jésus? Tes péchés te sont pardonnés. Oh, attends, excusez-moi, Jésus. Est-ce que j'ai mal entendu ce que vous avez dit? Non, non. Quoi? Quoi? Je suis pas venu pour ça. Oui, Jésus a une priorité supérieure à toute autre priorité. Celle de pardonner les péchés. Pensons à toute personne guérie dans cet évangile de Matthieu, ces trois personnes guéries au chapitre 8. Chacun d'entre eux est mort quelques années après avoir été guéri. Vous savez cela? Je n'ai pas entendu que la fille du centenier reste en vie aujourd'hui. Non, elle est décédée. Comme chacun d'entre nous, nous allons décéder. Même si nous retrouvons la bonne santé pendant quelques années après une maladie grave, nous allons tous mourir. Et que voulons-nous alors pour vivre? Une santé qui permet, disons, encore 10 ans plus de vie, ou une guérison qui permet une éternité de vie. Jésus met en avant cette dernière option, une éternité de vie. Ça, c'est sa priorité. Ça me fait penser à un ami que j'avais à l'école, lorsque j'avais 13 ans jusqu'à 18 ans, j'étais à la même école qu'un garçon de mon âge, qui lui était paralysé depuis l'âge de 8 ans. Ni lui ni moi, on était chrétiens à cette époque, mais on faisait quelques cours ensemble. En fait, il était paralysé parce qu'il a eu un accident de voiture avec son père dans la voiture, à un point où son père se sentait tellement coupable qu'il coupait tout contact avec la famille. Jusqu'à ce moment-là, moi je connaissais cet homme, il n'a jamais repris contact, tellement c'était grave pour lui. Ce garçon, donc, qui a dû subir non seulement l'accident et les conséquences, mais aussi la séparation de son père, il s'est converti à Jésus-Christ à l'université. C'était aussi le cas pour moi. On n'était pas à la même université, mais j'ai entendu parler de sa conversion après la mienne. Et au moment où il était à l'UNIF, cet homme donnait un témoignage lors d'une soirée où on présentait l'évangile de Jésus-Christ. Et il se mit devant dans sa chaise roulante et il commençait ainsi. Je n'y étais pas, mais quelqu'un m'a raconté ceci. Je suis tellement heureux de trouver Jésus-Christ parce que... Alors selon vous, qu'est-ce qu'il disait par la suite? Parce que cela a donné un sens à ma vie. Cela à m'aider à retrouver de l'espoir étant donné mes circonstances difficiles. Je suis tellement heureux de trouver Jésus-Christ parce que ainsi, disait-il, mes péchés sont pardonnés. Trois, chaise roulante depuis l'âge de 8 ans, qu'est-ce que tu as fait comme péché? Et voici un homme qui a compris les priorités de Jésus-Christ. Il est venu non pas contempler donc ses priorités, contemplant le pouvoir de Jésus-Christ, les priorités de Jésus-Christ, et dernièrement, dernier sujet, les points de vue divergents sur Jésus-Christ. Oui, c'est un peu forcé pour qu'on a 3 P, vous m'excusez pour cela, pardon, pouvoir, et maintenant les points de vue divergents sur Jésus-Christ. Mais les 3 récits nous présente de manière assez claire une variété, une grande variété de points de vue à propos de Jésus. Verset 27 du chapitre 8, de l'admiration de la part des disciples. Mais une admiration mêlée avec l'ignorance à son sujet. Quel est celui-ci? Verset 29, 2 versets plus tard, les démoniaques. Quant à eux, ils ont une meilleure théologie à ce stade que les disciples. Car eux, ils comprennent que Jésus est le Fils de Dieu. Que veux-tu de nous, Fils de Dieu? Mais eux ne veulent pas se soumettre à ce Fils de Dieu. Ensuite, il y a les habitants du pays des Gadaréniens. Cela, c'est un quartier à l'est du fleuve du Jourdain, dans un territoire plutôt non-juif, c'est pour cela qu'il y avait des troupeaux de porcs. On n'aurait pas vu des troupeaux de porcs en Israël. Mais contrairement aux derniers non-juifs que nous avons rencontrés au chapitre 8, le centenaire, qui avait sa fille guérie par Jésus, et puis selon Jésus, chapitre 8, verset 10, faisait preuve d'une grande foi, en ceci ne répondent pas positivement à Jésus. Ils le supplient à la fin du chapitre 8 de quitter leur territoire. Ensuite, il y a des gens qui amènent le paralytique à Jésus, qui, selon Jésus, eux, ils ont une foi. Ils reconnaissent que Jésus peut guérir cet homme. Il y a également des scribes, eux qui sont indignés par Jésus et de ce que Jésus dit. Eux, au lieu de vouloir faire face à toutes les démonstrations de la puissance de Jésus, non, ils écartent simplement cette possibilité. Ils restent ancrés dans leur catégorie trop limitée au sujet de Jésus. Ils n'ont pas suffisamment réfléchi pour finir sur ces mêmes écritures qu'ils pensaient croire. Sur le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, qui avait toute autorité de Dieu, sur le serviteur souffrant d'Ésaïe 53, qui devait venir pour guérir, pour pardonner les pécheurs. Mais nous terminons avec la foule, le dernier verset du chapitre 9. Parce que eux, ils sont saisis de crainte. Eux, ils glorifient Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Ça, c'est la bonne trajectoire pour répondre à Jésus. Jésus est l'homme qui vient de Dieu. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, il a toute autorité de Dieu. D'après les données de l'évangile de Matthieu, et je vous encourage de retrouver cet évangile, lire cet évangile pour vous-même. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous en chair humaine, celui qui nous sauvera de nos péchés par ce qu'il a accompli sur la croix. Cette trajectoire-là est celle que nous sommes également invités, même aujourd'hui, même ce matin, à poursuivre. Nous ne sommes pas invités de rester bouche bée devant Jésus, comme les disciples dans la barque, en disant simplement bon, « Quel est celui-ci ?» Non, nous ne sommes pas invités d'être ceux qui ont peu de foi. Leur peu de foi est peu, car ils n'avaient pas encore capté la grandeur, la majesté, l'autorité de la personne de Jésus-Christ. Mais est-ce que vous avez capté la grandeur, la majesté, l'autorité de Jésus-Christ pour vous-même? Et si vous vous dites, moi j'aimerais avoir la foi que d'autres dans cette salle y semblent avoir, hein, vous devez savoir qu'une telle foi ne vient pas parce qu'il y a une qualité innée en de telles personnes de mettre la foi en Jésus-Christ. Mais c'est parce que eux, ils sont convaincus que l'objet de leur foi, Jésus-Christ, est digne de notre confiance. Êtes-vous convaincu que Jésus-Christ est digne de votre confiance? Si vous n'êtes pas encore convaincu, il faut encore réfléchir chez eux, afin de pouvoir lui faire confiance. Donc, contemplez Jésus-Christ. De refuser de faire cela, c'est le verset 4. C'est avoir des mauvaises pensées dans notre cœur. C'est de mettre Jésus dans un autre cadre, qui ne cadre pas avec les données historiques. Et c'est mauvais, parce que ça révèle que nous n'avons pas envie de suivre celui qui vient de Dieu. Et soyons également honnêtes, si nous disons ce matin, disciples de Jésus, depuis un bon moment, parfois, n'est-ce pas, les circonstances difficiles de la vie, et ici je dis difficile, peut-être parce qu'il y a une grande difficulté par les circonstances externes, mais aussi difficile parce que peut-être nous sommes confrontés avec la tentation de notre propre cœur de ne pas faire confiance à ce que Jésus nous dit dans sa parole. Ces circonstances révèlent la qualité de notre foi, n'est-ce pas? Qu'elle est peut-être plus petite qu'elle devrait être. Et le remède, c'est pas de dire oui, oui, vous avez raison, je dois mieux faire, je viens à l'église, je suis méchant, bon, je vais me faire encore pour une semaine. Ça, c'est pas le remède. Le remède, c'est de se rendre compte que ma compréhension de qui est Jésus est bien trop petite. C'est en connaissant Jésus-Christ mieux Ils ont médité sa personne, ses œuvres, sa parole. Que j'arrive à faire confiance en Jésus-Christ. Et ça, pour reprendre les derniers versets de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 20, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est sur cette base-là, chers amis, cette réalité incontournable que l'Église de Jésus-Christ s'est construite. Parce que la suite, en Matthieu 28, verset 20, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est la réalité pour les disciples de Jésus-Christ. Qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi on le sait? Parce qu'il a toute autorité qui lui a été donnée sur la terre et dans le ciel. Faites-vous confiance, chers amis, à Jésus-Christ. C'est ça la question que Jésus lui-même nous pose. Prions ensemble. Combien nous te louons, Seigneur, que nous sommes privilégiés pour pouvoir encore écouter tes paroles à nous aujourd'hui, pouvoir contempler l'autorité de Jésus, son pouvoir sur la nature, sur le mal et sur les péchés. Merci, Seigneur, pour les prières de Jésus qui est venu pour pardonner des péchés, pour mettre en avant les besoins fondamentaux de l'homme et non pas les besoins que nous ressentons. Et nous te prions en conséquence que nous puissions avoir le bon point de vue sur Jésus, de placer notre foi confiante en lui, parce que nous voyons à quel point il est digne de notre confiance. Que Jésus-Christ soit, peut-être pour la première fois, peut-être que ça soit confirmé une nouvelle fois, qu'il soit notre Sauveur, qu'il soit notre Seigneur.